Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen. Je suis Arthur Merle et je suis très content de vous retrouver ce lundi pour parler foot avec nos spécialistes. On commencera avec la Ligue 1, Elton Mokolo qui va débriefer l'effet majeur de cette 11e journée, à commencer par ce spectaculaire réveil du Stade Rennais, victoire 4-1 contre Strasbourg, ce qui raconte aussi une autre réalité de cette Ligue 1. Dans le haut du tableau, on ne parvient pas à enchaîner. Est-ce que ce haut tableau serré cache une Ligue 1 un petit peu décevante? On va poser la question à Elton. Ensuite, notre spécialiste du football allemand, David Lortolari, va nous rejoindre avec Elton pour parler de cet énorme choc, bien sûr, à venir mardi entre le PSG et le Bayern en Ligue des Champions. Le choc de ce début de saison pour les deux équipes. Qui est favori? Quelles sont les dynamiques? Évidemment, on va décrypter tout ça en long, en large, en travers. Et puis on terminera avec la Première Ligue et Philippe Auclair qui va revenir sur ce retour à la normale quelque part en Première Ligue, Arsenal, City, Liverpool sur les trois premières places de ce classement. Mais on fera un focus sur les Reds de Liverpool avant leur choc, eux aussi, contre le Real Madrid. Est-ce que les Reds sont guéris après leur victoire contre Aston Villa ou est-ce qu'ils sont encore un petit peu malades? On verra tout ça avec Philippe. Voilà pour le programme, le rappel c'est toujours le même. Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Ce qui nous aide, c'est quand vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Bref, vous connaissez le topo. Vous avez le rappel, vous avez le programme. On est prêt. C'est parti. Allez, on démarre ce Tour d'Europe avec la Ligue 1 et on accueille Elton Mokolo. Salut Elton.
Salut Arthur, salut à tous.
Comment ça va? Est-ce que ton week-end, est-ce que t'as apprécié ton week-end de Ligue 1?
Écoute, il y a eu des choses intéressantes. Alors c'était moins que moins le week-end où il y avait eu quand même 40 buts le week-end précédent. Mais toujours est-il qu'on a apprécié parce qu'il y a eu quand même des moments forts dans cette Ligue 1. On aura le temps, on va avoir le temps de revenir là-dessus.
Ben justement, le moment fort, je pense, c'est cette grosse victoire du Stade Rennais. Enfin la chance qui sourit un petit peu, je sais pas si c'est la chance ou le talent à Habib Bey et ses Rennais. Victoire 4-1 contre Strasbourg, une bonne bouffée d'air pour Rennes et finalement même si on a été quand même critique sur le Stade Rennais d'Habib Bey, est-ce que ça vient pas récompenser une dynamique de fond où il y avait quand même un peu de cohérence?
Oui, ça récompense une dynamique entrevue depuis plusieurs matchs. Bon, il y a eu quand même la défaite contre Nice la semaine dernière. Mais toujours est-il que pour Rennes, par rapport à tout ce qu'ils ont pu montrer sur les 4-5 derniers matchs, je rappelle, Rennes, c'est quand même une équipe qui, sur ses 11 matchs de Ligue 1, a quand même mené à 8 reprises.
Ouais.
Mais ils n'ont pas toujours été récompensés. Et là, on a eu le sentiment, Arthur, que les planètes étaient alignées à partir du moment où tu mènes 4-0 à la 60e minute. Ce qui est un peu rare, surnaturel même pour le Stade Rennais. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, comme le disait Marcelo Bielsa, à un moment donné, tout s'équilibre. Et j'ai le sentiment que c'était sur ce match-là que Rennes a su être réaliste. Parce que, sincèrement, ça a été un match qui a été très ouvert. Strasbourg, faut pas oublier, a aussi eu des occasions à 0-0, à 1-0, à 2-0. Mais toujours est-il que le réalisme a payé cette fois-ci pour le Stade Rennais et ça a été incarné par un Le Poel qui a été extraordinaire. Mais parler seulement de Le Poel, ce sera injuste envers le collectif rennais qui a été quand même brillant.
Ouais, mais on est obligé quand même de faire un focus sur Esteban Le Poel parce que ce qu'il nous montre quand même depuis le début de saison, c'est qu'il est un attaquant d'instinct, un attaquant assez clinique. Il est, je crois, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 après cette 11e journée. C'est une vraie bonne... Alors, c'est pas une découverte, mais c'est quand même une belle confirmation, là.
Et moi, Arthur, je lui donne quand même énormément de mérite parce qu'il faut quand même recontextualiser. Il arrive en fin de mercato avec une étiquette transfert qui est quand même lourde à porter. Il vient d'Angers. On pouvait se dire que la marche serait un peu haute pour Esteban Le Poel. Et force est de constater que dans ce marasme, il a quand même des statistiques qui sont très impressionnantes et qui ont été rehaussées par ce triplé. Et j'ai même envie de te dire, Arthur... Il aurait pu mettre un quadruplé parce qu'à un moment donné, il y a Penders qui sauve une belle tête, enfin, qui fait une belle parade sur la tête d'Esteban Le Poel. Donc moi, je lui accorde énormément de mérite parce que j'ai le sentiment que même si Rennes a été en difficulté, reste encore dans la difficulté parce qu'ils sont encore dixième, Esteban Le Poel assume son statut parce qu'il y avait quand même Brahim Embolo qui arrivait cet été. Lui, il n'arrive pas à confirmer les attentes, c'est pire que ça, il déçoit, alors qu'Esteban Le Poel, lui, il a quand même marqué 8 buts.
Mbolo, c'est pas le seul à décevoir. Est-ce que la suite du Stade Rennais, ça va continuer de se faire avec des, en tout cas, certains cadres attendus en marge, à savoir Seko Fofana, à savoir Ludovic Blas? Est-ce que la nouvelle réalité du Stade Rennais, c'est un Stade Rennais porté notamment par des jeunes aussi?
Bah écoute, Arthur, pour moi, c'est un match témoin pour le Stade Rennais dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'ils sont capables de montrer sur un terrain. Et force est de constater qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, et peut-être que le football, et c'est d'ailleurs c'est la beauté de ce sport, ça peut rapidement changer. le Stade Rennais est meilleur avec Djaoui Cissé, le Stade Rennais est meilleur avec Maïté, le Stade Rennais est meilleur avec Lepaule. Et forcément, les cadres, notamment comme Fofana, comme Ludovic Blas, qui ont été écartés contre Toulouse, qui sont revenus. Mmh. Ludovic Blas est rentré en cours de match, mais à 4-0. Et bah aujourd'hui, le Stade Rennais est aujourd'hui meilleur sans eux. Alors maintenant, il ne tient qu'à eux de revenir dans cette dynamique, mais toujours est-il que moi, sincèrement, le 11 que j'ai vu hier, j'ai envie de revoir sur la continuité, qu'il n'y ait pas de blessure et qu'on voit un Rennes progresser et grandir dans ce championnat. Parce que sincèrement, on parle d'un Rennes qui est certes 10e, mais un Rennes qui a battu Marseille, l'Olympique Lyonnais et Strasbourg. Trois Européens, trois candidats déclarés à la Ligue des Champions.
Justement, on a parlé de ces candidats à la Ligue des Champions parce que ce match Rennes-Strasbourg, il raconte une autre réalité, celle de Strasbourg et de tous les autres prétendants à l'Europe, à savoir cette irrégularité. On a un haut tableau extrêmement serré, donc d'un œil comme ça de spectateur, c'est très agréable. Il y a du suspense toutes les semaines, et il y en aura certainement jusqu'en fin de saison. Mais est-ce que cette irrégularité des gros et ce classement très serré ne cache pas une Ligue 1 un petit peu décevante? Je regardais, le FC Metz est la seule équipe avoir deux victoires de suite actuellement en Ligue 1. Est-ce que ça raconte pas que la Ligue 1 elle est un peu décevante quand même?
Oui, là-dessus, Arthur, je suis d'accord. Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, ce classement resserré, parce que effectivement, à partir du moment où le PSG n'a pas fait un écart, on pourrait se dire que c'est quand même très bien pour le championnat. Il n'empêche que il y a pas cette fameuse régularité attendue et que voir une équipe remporter trois matchs de suite, ça reste quand même une chimère. Alors oui, il y a eu l'Olympique de Marseille. Faut pas l'oublier, qui a quand même fait 5 matchs de suite avec 5 victoires. Ouais. Ça, c'est vrai, ce qui lui a permis à un moment donné de reprendre la première place. Le même Olympique de Marseille qui, derrière, n'a pas gagné ses deux matchs suivants avant de regagner, bien évidemment, contre Auxerre. Donc, on a des équipes qui ne surperforment pas. On a des équipes qui peuvent performer, mais ça de manière ponctuelle. Et là-dessus, j'attends beaucoup plus de régularité, j'attends beaucoup plus de victoires pour avoir une Ligue 1 où la moyenne de points, elle serait beaucoup plus importante. Et là, le fait de voir le PSG, alors oui, c'est quand même normal que le PSG soit leader, mais un PSG qui est quand même, entre guillemets, pas à 100%, qui est pas dans la pleine mesure de ses moyens, on aurait pu penser qu'une équipe aurait pu en profiter. Le fait est que personne n'en profite et qu'aujourd'hui, le classement serré, attention, c'est pour moi, c'est un classement qui est trompeur dans la mesure où, à partir du moment où il y a des équipes qui ont beaucoup d'irrégularités, encore plus dans un championnat à 18, et ça se voit et que pour moi, c'est pas forcément le meilleur des indicateurs.
Tu disais personne n'a profité de ce début de saison un petit peu timide du PSG en Ligue 1. À qui est-ce que tu en veux le plus? Est-ce que nos regards sont obligatoirement tournés vers l'OM ou est-ce que tu aurais pu attendre aussi d'une autre équipe qu'elle se montre un peu plus mordante?
Alors moi, mon regard sera tourné vers l'Olympique de Marseille. Alors attention, l'Olympique de Marseille, j'ai quand même dit ici que sur le dernier mois de compétition, c'était la meilleure équipe de Ligue 1 avant Lens. Mais oui, on aurait pu dire l'Olympique de Marseille parce que c'est quand même 11 points abandonnés sur ce début de championnat. Ouais. L'Olympique de Marseille performe. On aurait quand même espéré que l'Olympique de Marseille, sur une saison 2 avec Roberto De Zerbi, surperforme pour mettre de la pression sur le PSG. On peut aussi évoquer l'AS Monaco, mais l'AS Monaco, il y a des éléments de contexte, à savoir qu'ils ont changé d'entraîneur, mais toujours est-il que factuellement, ils étaient deuxièmes mercredi soir, ils sont cinquièmes. Donc tout ça, c'est le symbole de cette Ligue 1 où justement les classements sont très mouvants. Et du côté de l'AS Monaco, je me serais attendu à ce que, notamment sur cette saison, ils aillent un peu plus déranger le PSG. Donc moi, je pense davantage à l'Olympique de Marseille et Monaco, même si du côté des défenseurs et de Marseille et de Monaco, on t'avancera le fait qu'il y a eu des blessures qui ont pu impacter les deux équipes, mais c'est la réalité d'un championnat. Et donc moi, c'est principalement envers ces deux équipes qu'il y a un petit rappel à l'ordre.
Moelton, on a parlé de la Ligue 1, là on va être obligé de passer en mode Ligue des Champions et en mode PSG, et on va accueillir avec nous David Lortolari pour parler du choc à venir entre le PSG et le Bayern. David Lortolari nous a rejoint, notre spécialiste du foot allemand. Salut David. Bon, d'abord, question Bundesliga. Est-ce que le week-end a été bon en Bavière et ailleurs?
Oui, week-end intéressant, mais très largement sur la dynamique de ce qu'on a vécu depuis le début de saison. C'est-à-dire trois choses très simplement. Un Bayern qui est dominateur, qui marque énormément de buts. On peut rappeler les chiffres ici ou là, bien sûr. Tout le monde les connaît, tout le monde les a à peu près en tête. Un Dortmund qui résiste avec de courtes victoires. Ça a été encore le cas avec Guirassy qui marque en fin de match. Et puis RB Leipzig qui a l'air d'être le troisième larron pour tenir un petit peu la cadence en ce moment, qui lui n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc ce sont un petit peu les trois équipes en valeur en ce moment. Bayern bien sûr, Dortmund et Leipzig. On retrouve quelque part les noms dont on a l'habitude. Mais Leverkusen lui est un peu en retrait.
Bon, sans faire offense à ce très beau championnat qu'est la Bundesliga, évidemment, ce qui nous intéresse ce lundi, c'est ce choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern. Messieurs, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va se faire un petit point sur les effectifs, sur voilà, les groupes de ces deux équipes. On va commencer par Paris Hilton. Zabarni suspendu, Doué est absent, Dembélé a priori est un peu sur une jambe. Est-ce que ces états de forme un peu disparates, est-ce que ces blessures récurrentes peuvent, selon toi, commencer à faire un peu mal au PSG à ces hauteurs-là?
De manière circonstanciée, sur un match contre le Bayern, oui, ça peut faire mal parce que sur le secteur offensif, on va se retrouver encore avec un trio d'attaque qui va être remanié entre la blessure de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, pour moi, il est acquis qu'il ne va pas démarrer contre le Bayern. Ça peut avoir une importance. Et d'ailleurs, je vais te donner un symbole. On devrait se diriger vers la 9e titularisation de suite pour Céline Mayoulou.
Ouais, c'est fou.
C'est un joueur qui n'était pas préposé justement à jouer les premiers rôles du côté du PSG, sauf que entre les blessures de Désiré Doué, d'Ousmane Dembélé, aussi de Dvarachea, et ben c'est un joueur qui enchaîne au point que aujourd'hui ce soit le joueur le plus titularisé et qui parte vers son 4e match en tant que titulaire avec le PSG. Donc c'est le symbole de ce PSG qui se cherche dans le secteur offensif en ce qui concerne les disponibilités.
David, je me tourne vers toi maintenant. Harry Kane a été laissé sur le banc, en tout cas, il n'était pas titulaire contre Leverkusen. Voilà, on a mis la star un petit peu au repos. Parle-nous un petit peu des dynamiques actuelles. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que l'infirmerie n'est pas trop remplie côté Bayern? Qui va jouer? Quelle est la compo probable? Voilà, raconte-nous un petit peu tout ça.
Ouais, il faut rappeler peut-être à nos auditeurs internautes que les trois absents de longue durée sont en train de se remettre en route un petit peu. On pense d'abord à Jamal Musiala, évidemment, sa blessure au Mondial des clubs contre Paris Saint-Germain. Il sera de retour peut-être fin novembre, début décembre. On ne veut rien presser, donc il n'y aura pas de Musiala. D'ailleurs, ça a des conséquences sur la dynamique des autres joueurs. C'est curieux parfois. Quand un prodige est absent, les autres ont peut-être un peu plus de latitude, un peu plus d'espace. Donc, pas de Musiala, bien sûr. En défense, on a bricolé un petit peu, hein, Vincent Compagnie a bricolé, parce qu'il y a eu une période de plusieurs semaines où les trois arrières gauches potentiels étaient blessés. Alphonso Davies, le titulaire, n'est pas encore remis. Il revient doucement, il ne sera pas là. Hiroki Ito, qui peut le remplacer, le japonais qui a très peu joué parce qu'il a toujours été blessé depuis son recrutement, lui non plus n'est pas disponible. Et puis Josip Stanisic, qui peut faire le rôle d'arrière gauche aussi, est de retour, lui. On peut le retrouver, il a joué quelques minutes récemment. Voilà, donc en défense, ça bricole, mais par ailleurs, tout le monde est apte. Effectivement, Arthur, c'est vrai, les trois joueurs qui ont été les plus impactants, qui ont marqué et passé le plus depuis le début de saison, Luis Diaz, Michael Olise sur les côtés et Harry Kane devant, ont été ménagés au coup d'envoi à l'occasion du match contre Leverkusen. C'est dire quand même un peu aussi le fait que Vincent Kompany contredit ce qu'on imaginait au début de saison, Arthur. C'est-à-dire qu'on se disait, OK, le groupe, l'effectif Bayern est très court, très réduit en nombre. Il va falloir puiser chez les jeunes si on a des blessures. Et pourtant, contre un, entre guillemets, un gros de la Bundesliga, le champion 2024, Leverkusen, Vincent Kompany se permet le luxe, et ça n'est pas de l'arrogance. Il a bien compris qu'il pouvait le faire, de laisser au coup d'envoi sur le banc des joueurs qui, tous les trois, devraient être quand même titulaires contre Paris Saint-Germain. On n'imagine pas que Michael Olise à droite, que Luis Diaz, le Colombien, à gauche, et que Harry Kane dans l'axe ne soient pas titulaires contre Paris. Voilà, donc les trois blessés que j'ai mentionnés, et puis la rotation, effectivement, que Vincent Kompany a mis en route cette saison, qui est une nouveauté, parce qu'il ne se permettait pas cela la saison dernière. Il y avait vraiment un peu toujours les mêmes. Et là, il a compris que pour aller loin en février, mars, avril, il fallait aussi faire tourner ceux qui sortent du banc sont performants. Donc pour l'instant, pas de souci de ce côté-là.
David, avant qu'on commence à tourner, tu me parlais de Nicolas Jackson qui a marqué ce week-end. Est-ce qu'on peut s'attendre à un 11 très offensif du Bayern, avec et Kane et Jackson et les joueurs de couloir qu'on connaît?
J'ai du mal à imaginer, effectivement, Arthur, j'ai beaucoup de mal à imaginer que Vincent Kompany opte pour un système attentiste, un petit peu plus défensif. J'imagine difficilement, par exemple, qu'il titularise trois milieux dits défensifs, un Goretzka, un Kimmich, un Pavlovic. Il ne le fait jamais, sous prétexte qu'il faudrait contrer un petit peu les offensives du Paris Saint-Germain. Je ne crois pas que même en déplacement, Vincent Kompany soit dans cette philosophie. Donc, on devrait se retrouver avec une équipe offensive comme à l'habitude. Est-ce que Jackson sera titulaire? Ça, ce n'est pas une évidence. Par contre, parce que, bien sûr, Son acclimatation prend un peu de temps. Il n'a pas été encore pour l'instant très très bon, mais joli symbole, il a marqué quand même ce week-end. Et l'entente avec Harry Kane, avec un Nicolas Jackson devant, Harry Kane un peu plus en retrait, une sorte de numéro 10 qui distribue un peu le jeu, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Voilà, il y a quand même des moyens pour Vincent Kompany de surprendre. On peut imaginer aussi, par exemple, un Olise axial et un petit Lennart Karl, le petit prodige de 17 ans sur la droite. Mais voilà, ce sont des options moins probables que un 11 de départ classique. Je pense que Vincent Kompany, qui ne renie jamais ses idées, quel que soit l'adversaire, démarrera un peu avec les titulaires dont on a l'habitude, Arthur.
Bon, messieurs, ce PSG Bayern, c'est le choc de ce début de saison en Ligue des Champions, incontestablement. Le choc entre les deux premiers du classement. On est obligé de poser cette question bateau, la question du favori. Vous m'avez vu venir, évidemment. Elton, je me tourne vers toi. Est-ce que on se pose la même question qu'avec le Barça? Est-ce qu'on est dans ce même état d'esprit, à savoir, non, avec ses absences, avec l'équipe qui est en face, le PSG ne peut pas être favori? Ou est-ce qu'on a fini par apprendre les leçons que ce PSG nous donne en Ligue des Champions et on se dit, si, ce tenant du titre, ce PSG qui arrive à se mettre au niveau en C1 est favori de cette rencontre?
Sincèrement, sincèrement, là, on parle d'un choc de mammouth. On parle d'un choc de mammouth parce qu'on a probablement les deux meilleures équipes, les plus en forme dans le football européen, que ce soit le Bayern qui est pour moi, sincèrement, c'est la meilleure équipe en ce moment parce que j'ai loupé un match du Bayern sans Coupe d'Allemagne.
Ouais.
Pour le reste, je regarde tout parce que c'est une équipe qui est extraordinaire. Et du côté du PSG, ils sont capables de montrer en Ligue des Champions. Fait, bah, quand il y a la musique de la Ligue des Champions qui arrive, ils sont au taquet, ils sont au rendez-vous, ils l'ont montré contre Barcelone. J'aime pas le dire, mais là, on est vraiment sur du 50-50. On est vraiment sur du 50-50 dans la mesure où ces deux équipes qui sont capables d'afficher un tel niveau que pour moi, c'est difficile de trancher soit envers le PSG, soit envers le Bayern. Alors, pour me couvrir, je pourrais te dire que le PSG est à domicile, mais quand on regarde le Bayern, qui est un football qui est non négociable, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils affichent le même état d'esprit, la même mentalité. Et moi, ce qui est très intéressant, c'est que là, on est sur le troisième match en un an entre le PSG et Bayern, et à chaque fois, ça a été des matchs témoins. Ça veut dire quoi? À l'Allianz Arena l'année dernière, on avait deux équipes qui se cherchaient pour des raisons évidentes. Le Bayern de Kompany qui lançait son aventure avec cet entraîneur-là. Le PSG de Luis Enrique qui devait se remettre du départ de Kylian Mbappé. D'ailleurs, on avait eu un 4-4-2 expérimental qu'on n'a plus jamais revu du côté du PSG. Ensuite, on a eu ce match aux États-Unis, ce quart de finale qui a été pour moi le meilleur match de la compétition. Et là, on a deux équipes sûres de leur force. Donc sincèrement, c'est très difficile de trancher entre le PSG et le Bayern.
David, côté allemand, on est forcément très optimiste, on a forcément envie de montrer les muscles. Le début de saison, il est exceptionnel du Bayern. On arrive conquérant au parc.
Oui, nous, c'est vrai que dans les médias, et Elton a raison de le rappeler, dans les médias, on aime bien se souvenir qu'il peut y avoir des ressorts de motivation, le match précédent, un mauvais tournant du match, une mauvaise tournure, un mauvais scénario. Je suis même pas sûr que Vincent Kompany joue sur cette fibre-là, parce que ce qui compte, c'est de continuer d'affirmer sa puissance, sa domination. Il a de plus en plus le sourire quand même, Vincent Kompany. Hein. Quand on regarde au bord du terrain, en conférence de presse, il a toujours montré de la sérénité. Et je crois qu'Elton a raison en employant le terme de non négociable, c'est-à-dire qu'on vient avec ses forces. Alors, il y a quand même deux petites questions à poser. Est-ce que la défense, Upamecano, Ta, qui est la défense titulaire de cette équipe, Jonathan Ta, arrivé de Leverkusen, et Upamecano, est-ce que cette défense-là peut résister à des offensives très variées comme celle du Paris Saint-Germain? Ça va être forcément un point intéressant parce qu'ils sont meilleurs que jamais, ces joueurs-là, ensemble, semaine après semaine. On sent que ça s'améliore, que ça se stabilise, que ça devient vraiment très bien. Mais là, c'est le test ultime, quelque part, avec Paris qui trouve des solutions à peu près contre tout le monde quand il faut marquer des buts. Donc, ça, c'est un peu le test. Et l'autre question, ben, ça va être, est-ce que les cadres vont être capables de porter l'équipe. C'est-à-dire qu'on pense à Manuel Neuer, où en est-il vraiment? Est-ce que s'il y a un arrêt à faire dans le match, il est capable de le réaliser comme par le passé? Est-ce que Harry Kane, face à des très très gros, en l'occurrence là, Paris Saint-Germain, saura répondre présent? C'est aussi une question. Et puis au milieu de terrain, ben voilà, les gens sont critiques vis-à-vis de Goretzka-Kimmich en disant, bon, c'est des sénateurs, ils sont là depuis longtemps. Est-ce que ces deux-là peuvent, à eux seuls, s'ils sont titulaires, maîtriser un petit peu aussi la belle cohésion et la belle maîtrise technique et tactique du PSG au milieu de terrain. Voilà quelques questions là, qui me viennent. Pour moi, le test, c'est quand même la défense du Bayern face à cette équipe du PSG, parce que la défense du Bayern, elle est beaucoup moins sollicitée en championnat, en coupe et dans les autres compétitions qu'en Ligue des Champions. Ça va être un vrai test pour ces deux-là. On les affirme meilleurs que jamais et on va voir face à l'attaque du PSG ce que ça peut donner.
David, tu as parlé de tactique, on va y venir. Elton, je me permets de te zapper sur cette question parce que tu parlais de football non négociable. A priori, le PSG, c'est non négociable. Le PSG voudra le ballon. Est-ce qu'on est un petit peu plus ouvert d'esprit, entre guillemets, du côté du Bayern sur cette question? Est-ce qu'on sait vivre sans ballon du côté du Bayern? Je crois savoir que c'est quand même assez efficace sur les transitions. Ils ont marqué des buts en quelques passes, en quelques secondes cette saison. Est-ce qu'il y a un football un peu plus hybride du côté du Bayern éventuellement?
Ben, je crois que oui. Alors, il faut voir toujours la qualité de l'adversaire. Mais on entend les coachs adverses dans les conférences de presse qui précèdent les matchs, qui disent tous à peu près, on va avoir nos moments. Certes, le Bayern est impressionnant, l'une des meilleures équipes du continent, pas de problème, tout le monde le dit. Mais ils disent, on va avoir nos moments. C'est-à-dire, on doit pouvoir être capable d'aller dans la moitié de terrain, avoir le ballon. Et c'est ce qui se passe effectivement si on regarde le dernier match de championnat. C'est assez éclairant, me semble-t-il, Arthur. C'est-à-dire que le Bayern, certes, il est devant au score au moment des scènes dont je parle, mais il accepte de laisser le ballon pendant 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que c'est pour se refaire? Est-ce que c'est pour souffler? Est-ce que c'est parce qu'il sait que il est stable aussi en défense? Et l'adversaire a le ballon et il est stérile, il n'en fait rien. Il y a très très peu de ballons qui arrivent dans la surface finalement, qui arrivent à Manuel Neuer, même si l'équipe adverse le possède pendant un moment. Ça a été le cas ce week-end deux, trois fois sur voilà, 10 minutes, un quart d'heure. Ça a été le cas sur d'autres matchs aussi. Il me semble, mais on va voir face à un adversaire de top niveau, il me semble que le PSG, que le Bayern accepte aussi de changer un peu de rythme, de laisser le ballon pour voilà, pour se refaire un peu peut-être sur le plan physique, pour souffler. C'est une équipe qui court énormément. Ça, c'est une nouveauté vraiment cette saison avec Vincent Kompany. C'est l'équipe qui court le plus en Bundesliga. Ça surprend beaucoup hein, parce qu'on se dit l'adversaire va courir, va s'essouffler pour avoir le ballon. En fait, c'est le Bayern qui fait beaucoup les efforts et donc il est capable aussi de laisser le ballon. Il va y être contraint hein, forcément aussi en partie Arthur contre le PSG. J'ai la sensation qu'il est plutôt armé pour résister à un adversaire qui s'octroie la possession.
Elton, tu disais que tu avais aussi énormément regardé le Bayern Munich cette saison. Par rapport à ce que tu as vu de ces deux équipes-là, sur quoi Paris doit appuyer? Quelles sont les failles éventuelles que tu as pu déceler dans ce Bayern par rapport aux forces parisiennes?
Alors sincèrement, c'est difficile de trouver des failles à ce Bayern, tant il est complet, tant il est compétitif. Mais ce que je pourrais dire du côté du PSG, c'est qu'il doit avancer avec sa feuille de route habituelle, cette idée de faire voyager le ballon dans le camp adverse, de faire courir l'adversaire, notamment à travers ces permutations, ces rotations qui font énormément de mal aux adversaires. Bon, on l'avait vu contre le Barça, on l'a vu aussi contre Leverkusen dans une configuration où il y a eu un 10 contre 10 et Leverkusen n'a jamais su gérer, alors pas cette infériorité numérique, mais cette égalité numérique plutôt inhabituelle. Donc ça, c'est la force du PSG avec cette capacité à amener du monde dans la surface adverse. Et d'ailleurs, c'est éloquent en Ligue des Champions. On parle d'une équipe qui a marqué 13 buts en 3 matchs. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le PSG, contrairement à la Ligue 1, où là pour le coup c'est quand même inhabituel, le PSG n'est que cinquième attaque de la Ligue 1. Là en Ligue des Champions, alors peut-être parce que c'est la Ligue des Champions, parce qu'il y a une meilleure concentration, cette idée que c'est des matchs qui sont beaucoup plus durs, et ben le PSG est beaucoup plus attentif. Mais toujours est-il que le PSG doit être capable justement de dire au Bayern qu'ils vont les faire courir, ils vont faire voyager le ballon et donc faire reculer le Bayern. Donc pour moi, ça va être l'enjeu le plus important, et notamment solliciter cette défense qui a quand même montré beaucoup de progrès du côté du Bayern.
Je voudrais quand même terminer sur un homme dont on a un petit peu parlé, mais on est obligé de s'attarder sur lui, c'est évidemment Harry Kane. David, tu disais qu'en Allemagne, on se demandait si Kane allait être capable de se mettre au niveau de ce genre de match. Est-ce que c'est vraiment une question qu'on se pose avec le début de saison qu'il réalise, ou est-ce que ce Harry Kane-là, avec ses chiffres absolument exceptionnels, il donne envie au Bayern d'être archi confiant en arrivant au parc?
Non, tu as raison, on est sur la seconde option, c'est clair. On pourrait se dire, oh là là, c'est effrayant parce qu'il fait tout. Il revient défendre à 80 mètres du but adverse, il repousse de la tête sur les corners. Alors ça, c'est ce qu'on demande, bien sûr, à des attaquants qui ont un fort jeu de tête, qui sont dans confort dans ce secteur de jeu. Mais il montre l'exemple sur toutes les zones du terrain. Tout le monde l'a constaté. On le connaissait un peu comme ça, bien sûr, à Tottenham. Mais là, il y a en plus de cet effort-là. participer au jeu, être le premier relanceur, se précipiter aussi dans la zone où ça fait mal, parce que ça, il est très très fort pour ça. En plus de ça, il y a la précision du geste. Le geste juste, il y a quoi? Il y a une passe ratée par match de Harry Kane, alors qu'il est toujours avec des défenseurs sur le dos, etc. Donc non, non, c'est très impressionnant. Je disais ça en souvenir d'autres attaquants dont on a pu poser la question face à des top équipes. Est-ce qu'ils sont capables de dérouler comme ils le font face à des équipes moins fortes? Je pense par exemple à Ibra quand il était au PSG ou à d'autres. Il y a d'autres exemples comme ça. Est-ce que ce sont des porteurs de performance face aux meilleurs? Non, Harry Kane, me semble-t-il, est là-dedans. Et après, si ça n'est pas lui qui marque, parce que quand même, il y a eu des moments. Des heures et demie ou 2 heures même où il n'a pas marqué, c'est autour que ça bouge tellement. On n'a pas signalé Gnabry aussi, hein, qui a fait un très très bon début de saison. Ça, c'est Vincent Kompany qui a permis peut-être à Gnabry de retrouver de l'optimisme, du temps de jeu, etc. Bravo à l'entraîneur pour ça. Et ça veut dire que toutes les options qu'on a mentionnées avec Luis Diaz, avec Olise, avec ceux qui arrivent de l'arrière aussi, Harry Kane peut servir de relais. En fait, dans certains matchs et dans certaines offensives. Si vous me permettez, messieurs, juste peut-être une petite faiblesse du Bayern dans le dos des latéraux, parce que ce soit Leimer, que ce soit Sacha Boué quand il joue, et il joue de plus en plus aussi, dans le dos des latéraux, il y a peut-être de quoi faire. Pour le Paris Saint-Germain, je ne sais pas si ça correspond un petit peu au système de jeu et à la tactique que peut développer Luis Enrique, mais les latéraux du Bayern sont tellement offensifs que certes, ils se sont améliorés dans l'aspect défensif, mais il y a peut-être là à jouer, à chercher ces zones-là dans le dos des joueurs du Bayern, les joueurs des côtés lorsqu'ils ont perdu le ballon. Voilà, c'est un petit fragment tactique peut-être qu'il faudrait pouvoir exploiter pour le Paris Saint-Germain.
Elton, sur la gestion des 1 contre 1, on ne se fait pas tellement de soucis pour le PSG, notamment côté Nuno Mendes qui a mis à peu près tous les ailiers de top niveau dans sa poche ces derniers mois. Est-ce que la gestion de Harry Kane et de son influence et de ce côté multitâche, c'est peut-être la clé majeure de cette rencontre, en tout cas défensivement pour Paris?
Ça va être une clé, évidemment, parce que c'est un joueur qui est lisible. C'est un joueur qui est lisible, qui est capable d'aller dans toutes les positions, parce que il a trouvé en Michael Olise, en Luis Diaz, des joueurs qui sont capables de rester dans le camp adverse, de rester haut. Moi, j'ai le souvenir notamment du deuxième but contre le Borussia Dortmund, où c'est Harry Kane qui est en position de milieu de terrain, qui envoie une diagonale pour Luis Diaz, et ça se termine sur un but de Michael Olise. Donc, c'est ce que permettent les coéquipiers d'Harry Kane, d'avoir un rôle pour l'anglais qui est beaucoup plus important, beaucoup plus illisible pour l'adversaire. Et là, pour le coup, c'est pas une question de positionnement individuel,
Ouais,
c'est
c'est
une
ça.
question de positionnement collectif. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Harry Kane, à un moment donné, il va dézoner, il va avoir une utilité pour le Bayern. Comment le PSG va réagir? Et là, pour le coup, j'attends pas seulement du milieu, enfin de la défense parisienne, un très bon comportement.
Le
Et
milieu.
j'attends surtout le milieu de terrain, avec notamment bah, le travail d'harcèlement d'un João Neves, le travail d'un Vitinha, le travail d'un Fabián Ruiz, qui avait été précieux lors de ce fameux quart de finale au Mondial des clubs. D'ailleurs, bah, c'est sur l'une des paires des balles d'Harry Kane qu'il y a le but de Désiré Doué, l'ouverture du score. Donc, c'est au PSG de reproduire la même chose, limiter cette influence globale d'Harry Kane pour se rapprocher de la victoire.
Bon, messieurs, je crois qu'on a fait le tour
Voilà, on a
ou pas loin. On a à peu près tout dit de cette rencontre. Merci à vous deux pour vos analyses. Merci David. Merci Elton. Nous, on va filer rejoindre Philippe Auclair pour parler de Première Ligue. Mais en tout cas, on a hâte de voir ce PSG Bayern mardi soir. Allez, on termine ce tour d'Europe du côté de la Première Ligue. Évidemment, on ne passe pas un lundi sans parler de ce qui se passe dans le championnat d'Angleterre. Salut Philippe, j'espère que tu vas bien, que le week-end a été bon. Bon, quand on regarde le classement de Première Ligue, l'un des enseignements du week-end, c'est quand même cette espèce de retour à la normale. Arsenal est toujours en tête, mais City et Liverpool le suivent au classement. Voilà, retour à la normale du côté de la Première Ligue.
Presque, parce que Bournemouth c'est quand même toujours dans la course avec le même nombre de points que Liverpool, mais c'est vrai, on retrouve les. Et ensuite, tu aurais pu ajouter et Tottenham et Chelsea en 5e et 6e position, et Sunderland qui sort du top 6. Donc, et même Manchester United qui commence à remonter. Donc, oui, c'est vrai, les choses rentrent un petit peu dans l'ordre. Ce n'est pas un championnat aussi serré que la Ligue 1, ce n'est pas souvent que je te dis ça. Mais c'est vrai que les choses rentrent dans l'ordre avec Liverpool, bien évidemment, qu'on attendait au tournant parce que. 4 défaites consécutives en championnat, c'était quasiment unique. Et on attendait donc la venue d'Aston Villa à Anfield pour savoir si jamais bah, l'équipe d'Arne Slot, dans quel état elle se présenterait, en tout cas pour la Ligue des Champions. Et on a eu un élément de réponse, à savoir qu'au moins, ils ont gagné.
Ouais, on
Mais je
va
dois vous
dérouler
être
un
très
peu
honnête.
plus. Excuse-moi Philippe, je te coupe. On va dérouler un peu plus en détail ce qui s'est passé du côté de Liverpool. On se fera un bon focus sur le match à venir contre le Real Madrid dans la foulée. Si ça te dérange pas, on va d'abord parler d'Arsenal. On en a déjà parlé la semaine dernière. On était plutôt optimiste sur le fait qu'Arsenal puisse croire en ses chances de titre. C'est un euphémisme. Arsenal continue de gagner et Arsenal ne prend toujours pas de but. Je crois que ça fait 7 matchs, toutes compétitions confondues, que les Gunners ne prennent pas de but. C'est tout bonnement hallucinant ce qu'ils proposent les Gunners défensivement. Là.
Totalement. C'est en fait, je crois, au niveau du nombre de buts encaissés après 10 journées de championnat, on n'a jamais vu ça. C'est aussi simple que cela. Et une nouvelle fois, et en déplacement, ils ont prouvé leur solidité. Avec en fait des équipes, non seulement ils ne prennent pas de but, mais ils concèdent très peu d'occasions de tir. Quand ils jouent, quand on joue contre Arsenal, on n'a même pas l'occasion de tirer au but. C'est-à-dire que le jeu, ils arrivent à stopper, casser le jeu de leurs adversaires avant que les adversaires soient en position de les mettre en difficulté. Et ce qu'on a vu en particulier en première période à Burnley était absolument magnifique en plus. Parce qu'il n'y a pas toujours eu la manière cette saison. Il y a eu des moments où des matchs assez difficiles, assez compliqués. Alors bien évidemment, c'est toujours sur des coups de pied arrêtés que la situation se débride un petit peu. Là, c'est Gyökeres, au passage, qui fait un match, une première mi-temps absolument fantastique, qui profite de l'occasion sur ces corners délivrés par Declan Rice avec tellement de vice. Mais aussi, on a vu dans le jeu, ils se sont créés énormément d'occasions. Ils auraient pu terminer cette première période avec 5 ou 6 buts à leur crédit, à leur actif. C'était franchement impressionnant. Et je crois qu'en fait, c'était au niveau de la performance, probablement les 45 minutes les plus abouties qu'on ait vu d'Arsenal. Alors certes, contre un promu, mais qu'on ait vu cette saison d'Arsenal en championnat d'Angleterre, parce que quand même la performance contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions était absolument exceptionnelle. Mais tu as vraiment l'impression, excuse-moi, malgré les problèmes de blessures qui continuent, je vais y arriver, et malgré mon chat dans la gorge, tu as l'impression, malgré ces blessures, que Arsenal est dans une dynamique en ce moment, tu ne vois pas très bien qui peut la stopper. En ce moment. Mais le seul problème, encore une fois, les blessures, le club tient au secret médical, c'est moins qu'on puisse dire, on sait très peu de choses sur l'état de santé des joueurs qui sont obligés de quitter le terrain. Là, c'était le cas de Zubimendi et de Gyökeres. A priori, il s'agit de petits problèmes musculaires et en fait de mesures de précaution, donc a priori, pas de quoi s'inquiéter, mais la liste est quand même longue. Mais cela dit, ça ne semble pas impacter leur confiance et leur niveau de jeu.
Bon, on va suivre ça de près. On a quand même hâte de les voir, les Gunners, se frotter à d'autres top clubs en Ligue des Champions parce qu'il y a le sujet de leur domination en Première Ligue, mais on va bientôt devoir parler aussi de leurs ambitions en Ligue des Champions, très certainement. Un petit mot sur Manchester City également, victoire contre Bournemouth. Erling Haaland continue de marquer. Moi, il y a quand même une stat qui m'a interpellé, c'est que le deuxième meilleur buteur de Manchester City cette saison, c'est Maxime Estève, le défenseur de Burnley, si je ne m'abuse. qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette statistique, à savoir qu'il n'y a aucun autre joueur, à part Erling Haaland, qui a marqué plus d'un but pour Manchester City cette saison. Qu'est-ce que ça raconte de City?
Ça raconte qu'ils sont, ils ont tout simplement Erling Haaland, qui en ce moment est totalement inarrêtable. Quand tu vois le premier but de Haaland, tu te dis... Tu savais, dès qu'il prend le ballon, tu sais ce qui va se passer. Et ce n'était pas nécessairement le cas, je te dirais, l'année dernière, où il avait un petit peu marqué le pas à la Haaland. Il marquait toujours énormément de buts. Mais tu avais cette accélération, cette conduite de balle que je trouve absolument hallucinante, parce que le finish est absolument impeccable, mais c'est la façon dont il court avec le ballon, en utilisant pied droit, pied gauche, surface de la chaussure et tout ce que tu voudras. C'est absolument extraordinaire. Et il est tout simplement, c'est le point focal de cette équipe. Je ne dirais pas qu'ils sont en Haaland dépendance, parce que quand tu les vois jouer sans Haaland, c'est Marmouche qui était là, mais ce n'était pas évidemment en championnat d'Angleterre. Ils ont des possibilités. Je veux dire, on va voir d'autres joueurs marquer plus d'un but cette saison pour Manchester City, mais en ce moment, il est dans un tel état de forme que c'est lui qui fait la différence. Enfin, lui, bien aidé, cela dit, je pense qu'on en reparlera d'ailleurs à l'avenir, par un joueur qu'on avait presque fini. En qui on avait presque fini de croire, je pense, en Ligue 1. Et puis là, qu'on voit nous montrer pourquoi on croyait en lui, c'est Ryan Cherki, qui fait un match épatant, éblouissant même, je dirais, et qui est à l'origine des buts de Erling Haaland. Et de
Ouais, on
voir ces
reviendra
deux-là
sur.
combiner ensemble.
Ouais.
Ouais, il faudra parce que la façon dont ces deux-là combinent, ça fait espérer de très très belles choses pour Manchester City, mais je pense que ça fait également espérer des choses très intéressantes pour l'équipe de France.
Ouais, tout à fait. Mais ce sera intéressant quand on aura un peu plus de matière, un peu plus de matchs au compteur aussi pour Rayan Cherki, de voir avec toi un petit peu comment aussi se passe sur la durée son adaptation en Première Ligue, parce qu'il y a
C'est
des
vrai.
déclats assez intéressants de Pep Guardiola à son sujet aussi sur le fait qu'il doit encore comprendre des choses avant d'être un titulaire à part entière dans cette équipe. Donc nul doute qu'on aura l'occasion d'en reparler. On va ouvrir cette page Liverpool plus en détail, Philippe. Gros match à venir contre le Real Madrid. Ce qui, en début de saison, aurait dû être présenté comme un énorme choc, finalement, on le lit pas tout à fait de la même chose, de la même manière, pardon. On regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines pour Liverpool. Les Reds ont mis fin à l'hémorragie contre Aston Villa. On commençait à le dire tout à l'heure. Quels sont les enseignements finalement de cette rencontre? Est-ce que c'est un résultat en trompe-l'œil? Je crois savoir que ce n'était pas un match particulièrement spectaculaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de cette victoire qui met fin à l'hémorragie en Première Ligue?
Alors, il y a d'une part les commentaires des médias ce lundi matin qui te disent c'était le match dont Liverpool avait besoin. Les médias également qui parlent énormément du 250e but de Mohamed Salah pour Liverpool. C'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Mais je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le fait que ce match aurait pu être complètement différent et que ce sont des faits de jeu qui ont déterminé ce résultat. Et d'ailleurs, Arne Slot le reconnaissait. Après, tu sais, il est toujours très honnête dans ses appréciations de rencontres. Donc, bien évidemment, grande satisfaction d'avoir pu battre Aston Villa et au passage de réintégrer le top 4. Ça, c'est une chose. Mais je pense que ça ne lui aura pas échappé, c'est le moins qu'on puisse dire, et que c'est quelque chose sur lequel il va bosser, c'est que Aston Villa s'est tiré non pas une balle, mais deux balles dans le pied. Et en l'occurrence, quand tu vois, et là, je t'avouerai que j'ai beaucoup de mal à comprendre que Unai Emery, qui est un manager qu'on sait si pointilleux, dont on connaît le talent pour bien organiser ses équipes face justement aux prochains adversaires et à modifier ses plans de jeu en conséquence. Cette insistance qu'Aston Villa a eue à jouer depuis l'arrière avec Emi Martinez, alors que Liverpool est une équipe qui a d'énormes problèmes sur les longs ballons et les deuxièmes ballons, c'est ça qui leur coûte l'ouverture du score par Mohamed Salah. C'est Emi Martinez, mais qui fait une boulette, mais absolument invraisemblable. Et voilà, il s'empêtre et le ballon arrive à Mohamed Salah, qui a une cage vide. Alors il le place très très bien, son ballon. Mais s'il n'y a pas ça, juste avant, tu as Morgan Rodgers qui frappe le montant malgré tout. Et Aston Villa s'est créé des occasions. Et Liverpool n'a jamais paru complètement calme. Et Liverpool, pour moi, ne m'a jamais paru comme étant complètement avoir le contrôle du match. Et c'est plutôt Aston Villa, des erreurs défensives, qui ont fait que Liverpool ben, en a profité par Mohamed Salah, par Gravenberch, qui est revenu dans l'équipe et au passage à qui il a fait du bien. Mais ce n'était pas une grande performance de Liverpool. Et le fait qu'il n'ait pas encaissé de but, ça, je crois que c'est la chose qui lui plaira le plus à Arne Slot, est un petit peu en trompe-l'œil parce qu'Aston Villa s'est créé des occasions, parce que Aston Villa a trouvé les montants du but de Mamardashvili. Donc, ce n'est pas une performance qui, quant à moi, me rassure complètement. Les insuffisances défensives de Liverpool sont toujours là, sont toujours visibles. Il y a. Je pense que le fait de faire jouer à Robertson plutôt que Kerkez a peut-être redonné un petit peu de solidité, on va dire ça comme ça, au moins sur le côté gauche. Mais franchement, c'était bien, c'est du soulagement, c'est l'espoir que ce soit un début j'allais dire de retrouvailles avec la forme pour Liverpool, mais de voir en cela la preuve que Liverpool, ça y est, c'est terminé, on oublie ce passage à vide, non, pas du tout. Il y a encore des déséquilibres. Il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas à 100%, et puis il y a des absents aussi du côté de Liverpool.
Ouais, il y a des absents, notamment du côté des recrues. C'est l'un des sujets quand même cette saison du côté des Reds, l'intégration des recrues. Là, Alexander Isak est blessé, Frimpong est blessé, Florian Wirtz, toujours pas très décisif quand même. Est-ce que ça devient de plus en plus pesant, ce sujet de ces recrues qui n'arrivent pas véritablement à performer, ou on préfère penser au regain de forme de Mohamed Salah?
Ces recrues ne sont pas les seules à ne pas être véritablement au niveau ou au niveau qu'on espérait pour elles. Je pense à Ibrahima Konaté, on ne peut pas dire qu'il fasse la meilleure saison de sa carrière. Je pense à McAllister, le champion du monde argentin, qui au passage a beaucoup de chances de ne pas quitter le terrain avec un deuxième jaune. Hein. Je dis ça au passage. Hugo Ekitike, c'est plutôt satisfaisant, mais Mohamed Salah, ça ne l'est pas, malgré ce but, et on lui a donné la récompense d'homme du match. J'avoue que c'est plus peut-être pour saluer la statistique de 150 buts qu'autre chose. C'est pas seulement les recrues qui ont des problèmes, c'est également ceux qui les entourent. Et c'est plus un problème collectif. Et parce qu'une intégration, oui, on va appeler ça un problème d'intégration, mais c'est un problème d'intégration collective. Ce n'est pas un problème d'intégration individuelle. Je fais partie de ceux qui pensent que Florian Wirtz, bon, de toute façon, l'un des meilleurs joueurs à son poste en Europe, est quelqu'un qui va faire énormément de bien à Liverpool à l'avenir. Mais je ne pense pas qu'ils sont en ce moment en train d'utiliser la même partition pour chanter. Et quand tu as un chœur qui se met ensemble et qui chante depuis quatre ou cinq partitions différentes, le résultat, c'est un peu une cacophonie quand même, hein. Et c'est un peu ce qu'on a en ce moment à Liverpool, plutôt que des problèmes d'adaptation individuelle qui existent, dans le cas de Kertész, par exemple, dans le cas d'Alexandre Isak, qui n'a pas eu de pré-saison, c'est vrai, mais c'est surtout un problème collectif.
Donc le cas, pour préciser un petit peu sur Mohamed Salah, c'est un peu à l'image de ce Liverpool, à savoir son but et ses deux derniers buts sur ses deux derniers matchs sont un petit peu l'arbre qui cache la forêt. On n'a pas encore le Salah qu'on aimerait avoir du côté des Reds.
Non, on ne l'a pas encore et je ne sais, très honnêtement, je ne sais pas si on le retrouvera un jour. Je sais qu'avec Mohamed Salah, c'est très dangereux de faire ce genre d'avoir ce genre d'opinion parce que ce n'est pas la première fois dans sa carrière qu'on le voit avoir un petit passage à vide et on se dit, ah bah c'est peut-être la fin de Mohamed. Et puis 2 semaines plus tard, on a l'air très bête parce que Mohamed était bien de retour. Mais dans cette saison, tu ne le sens pas être au niveau où il était il y a 2 ans ou 3 ans, très honnêtement. Donc oui, il y a ce problème parce qu'on a, en fait, avec l'acquisition de tous ces nouveaux joueurs, on est en fait entré dans l'ère de transition de l'après-Salah déjà. Il est toujours là, mais en sachant qu'il ne le sera pas très longtemps et que donc on essaye de faire évoluer cette équipe pour ne plus être en état de dépendance vis-à-vis de lui. Et je ne sais pas également si c'est ça qui le déséquilibre un petit peu aussi. Il n'est pas au diapason des nouveaux arrivants, mais il n'a pas le rendement non plus habituel. Même au niveau des buts, ce n'est plus tout à fait ce que c'était. Au niveau dans le jeu également, ce n'est plus tout à fait ce que c'était. Il ne pèse pas autant qu'il pesait autrefois. Il n'est pas fini, je ne vais pas dire ça comme ça. Ça reste un joueur d'exception, ça tout le monde le sait, capable de choses absolument magnifiques. Pas ce but, si, mais l'avant-dernier, et qui était dans un angle absolument incroyable, il a toujours cette capacité, mais il n'est pas le Salah d'avant. Donc, oui, c'est un arbre, je ne sais pas s'il cache une forêt, il cache un bosquet, on va dire ça comme ça, parce que les choses ne sont pas si catastrophiques que cela non plus, on ne va pas exagérer et faire dans l'hyperbole. Oui, l'arbre qui cache un bosquet, on va dire ça comme ça.
Bon, en tout cas, quelle que soit la forme de Salah et de Liverpool, ça reste un match qu'on a extrêmement hâte de suivre, ce Liverpool-Real Madrid, mardi soir. Merci en tout cas, Philippe, pour ton analyse et on te retrouve lundi prochain pour continuer de nous parler de cette actualité très dense en Première Ligue. Bonne semaine à toi.
Et à vous de même.
Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Le petit rappel, encore une fois, n'hésitez pas à nous retrouver tous les lundis sur notre chaîne YouTube Eurosport France, à vous abonner, à liker, à partager. Et puis vous avez aussi les autres émissions foot, enfin en tout cas l'autre émission foot, le FC Stream Team, tous les vendredis, et plein d'autres émissions, la F1, le tennis, vous avez de quoi faire. Merci encore, passez une très belle semaine de football européen, elle sera dense, et à lundi prochain. Salut!